Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 tout pile sur France Inter. France Inter à l'heure des teenagers.
Vous êtes en direct, allez-y.
Allez, pour une fois qu'on ne va pas se lamenter sur une jeunesse qui piétine l'orthographe, qui se goinfre de vidéos YouTube, qui conchit les médias, qui ne lit de livres que sous la menace physique, ou alors un journal, et un journal n'en parlons même pas. Ils ont tous moins de 20 ans, ils ont choisi le papier, oui j'ai bien dit l'encre et le papier, pour imprimer leur magazine culturel à grande échelle. Le chef de bande et éditeur est en terminale, il a déjà publié 3 romans. Feuilletons avec lui Son Canard, le petit mardi qui sort en kiosque aujourd'hui. En se demandant à quoi sert la jeunesse si elle fait résolument comme ses aînés.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Guillaume Benesch.
Bonjour.
Voilà, qui est arrivé de Rouen, qui a attrapé son train. Vous séchez l'école aujourd'hui?
Je sèche les cours, ouais.
Oui.
Je sèche les cours. Avez... C'était un peu galère aussi avec les grèves aujourd'hui.
C'est ça, bravo. Les profs ont été prévenus. Les profs sont peut-être grévistes.
Peut-être aussi, je ne sais pas du tout.
Voilà, vous n'avez même pas eu le temps de vous en rendre compte. Donc, le petit mardi, un vent de fraîcheur sur la culture sort aujourd'hui en kiosque. Mm-hmm. Il est vendu 90 centimes. Vous avez tous entre 16 et 19 ans. Vous avez même démarré l'aventure, vous aviez entre 14 et 17 ans, mais vous vieillissez.
Tout à fait.
Vous aussi, et ça tombe bien, ça nous rassure. Avec nous également ce matin, Romain Nivita. Salut Romain.
Bonjour Sonia, je ne sèche pas les cours, moi.
Non, le bûcheron de la série télé, c'est Romain. Est-ce qu'on va pouvoir regarder autre chose que Docteur Who cette semaine?
On va trouver quelque chose,
ne vous inquiétez pas. Quelque chose. Allez, actu des médias. À votre avis, qui est la personnalité la plus citée dans les journaux télévisés en dehors des hommes politiques durant l'année 2016?
Ali MR et Frédéric L ont été déférés ce jour à mon parquet qui a ouvert une information judiciaire. Je vous remercie de votre attention.
On n'oubliera jamais ni sa voix ni son visage, c'est François Molins, le procureur de Paris, et pour cause. L'INA vient juste de publier son décompte annuel 2016, attentats de Nice et de Saint-Étienne-de-Rouvray, assassinat des policiers de Magnanville, fusillade à Orlando, attaque en Allemagne et en Belgique. Le terrorisme a été le thème le plus abordé dans les JT français, avec 3052 sujets au cours de l'année, soit plus de 10% de l'offre globale d'informations. Et patatras, c'est le bruit sourd du marché de la télévision en train de s'écrouler. Je ne vous parle pas des audiences aujourd'hui, je vous parle vraiment du téléviseur. Depuis le début de l'année, les ventes ont été divisées par deux. Le secteur avait été dopé un temps par les écrans plats, mais la concurrence des programmes regardés sur des ordis ou sur des tablettes ont eu raison de cet objet qui s'est répandu dans nos salons au fur et à mesure des 30 Glorieuses. Quoique, ça va tellement mal dans le secteur, d'après ce que j'ai compris, que Guillaume, si vous vous installez, vous vivez peut-être encore chez vos parents.
Tout à fait, ouais.
Voilà, et ben, si vous voulez acheter une télé pour votre prochain studio d'étudiants, c'est le moment parce que les prix sont cassés. Il s'appelle Alain Etoundi, il est cinéaste, il s'est vu refuser les financements pour monter son film. Alors évidemment, il n'est pas le seul dans cette situation. Ça veut peut-être simplement dire que son projet est très mauvais, je n'en sais rien. En attendant, il a posté sur Facebook une vidéo enragée, titrée « Allez-vous faire en filmer ?»
Canal+, Orange, Arte, continue à financer des films comme Divine ou Braqueur. C'est la vie en grand pour moi. Un véritable convoi de films racistes, sexistes, violents. C'est ultra nocif ça. Pire que mon bordel. Merci à vous, DJ Lupfer, François Mergier, David Kessler, Augustin Amri et Véronique Kella.
Voilà, ce sont les noms de tous les patrons de chaîne que vous venez d'entendre cités par Alain Etoundi. Il s'en prend donc au CNC, mais aussi aux chaînes de télé, parce que les chaînes de télé préachètent les films. 1 600 000 vues pour cette vidéo en 3 jours. Allez voir, je vous poste un lien sur la page de l'Instant M. Il y a derrière sa colère et peut-être sa mauvaise foi un sujet passionnant, la place et la représentation des Noirs dans le cinéma français, la guerre aux stéréotypes et la parole à une jeunesse française noire, nourrie, sans doute malgré elle, à la culture américaine parce que chez nous, elle ne se voit pas à l'écran ou alors elle se voit mal. Allez, Romain, Nivita, on a dit actu des séries, on est mardi. The Deuce, je The prononce Deuce. Bien. Voilà, ça a commencé hier soir sur OCS et c'est rattrapable en replay. C'est la nouvelle production de David Simon, le créateur de The Wire.
Et j'ai adoré cette nouvelle série. J'ai vraiment littéralement dévoré les 8 épisodes de cette première saison de The Deuce. Donc une série co-créée avec son complice George Pelicanos. Une série qui nous transporte à New York en 1971. On colle au basque de la faune nocturne de Times Square, les flics et les voyous, mais aussi et surtout les barmen, les macs et les prostituées. Alors tous vont se retrouver au centre d'une révolution culturelle inédite, l'explosion de l'industrie du cinéma pornographique. Ouais. Alors même que le quartier commence à s'aseptiser. Le New York des années 70 s'est reconstitué avec un soin maniaque, l'ambiance est funky et le rythme est ébouriffant.
La tête d'affiche, c'est James Franco.
Tout à fait, il joue deux frères jumeaux qui ont vraiment connu cette période. L'un est barman, l'autre est un voyou. Mais indépendamment du tour de force de l'acteur, Franco est en fait loin d'être le point d'ancrage de la série. Ce sont les prostituées, une galerie de femmes au destin fracassé sur les récifs de la vie qui sont au centre de The Deuce. Incarnée par l'incroyable Maggie Gyllenhaal, l'une d'elles symbolise à elle seule la transition du monde de la rue vers celui des studios de cinéma X, car cette prostituée ose vouloir se passer des macs.
Nobody makes money off of my pussy but me. I'm gonna keep what I earn. I don't need you. I don't need anybody else to hold my fucking money. No, let me do my thing. You're busting on my groove, right?
Show money for me again.
Money.
Money, l'argent.
L'argent, parce qu'elle explique donc à un Mac qu'elle ne travaillera pas avec lui et que personne ne fera de l'argent avec son cul, on va dire. Donc l'argent, tout s'achète et tout se vend. Bienvenue aux États-Unis. Après la drogue et les logements insalubres, c'est donc au sexe que s'intéresse David Simon. Le sexe dans tous ses états, tarifié ou consenti, mécanique ou romantique, glauque ou glamour. On va donc voir le sexe quitter la rue pour investir les salons de massage et les cabines de sex shop. Le sexe est donc toujours là, mais caché avec la complicité des autorités.
Voilà, et vous me surprenez Romain, parce que vous et moi n'avons pas forcément les mêmes goûts, et c'est tant mieux, et vous, vous n'êtes pas vraiment fan de David Simon, qui est pourtant mais vraiment un des créateurs cultes de la série américaine.
Eh bien tant pis, je l'assume. Sa série policière The Wire sur trafic de drogue à Baltimore est régulièrement affublée du titre de meilleure série de tous les temps. Bon, c'est déjà un peu grotesque de décerner un titre pareil, mais moi en tout cas je la trouve bien trop bavarde et trop lente à démarrer. Alors c'est vrai qu'elle est remarquablement documentée grâce au passé de journaliste de David Simon, mais à mes yeux elle n'atteint pas les sommets de Breaking Bad, de Oz ou des Sopranos dans la catégorie des séries dramatiques.
Voilà, et moi je vous recommande chez David Simon, parce que moi j'admire énormément ce mec, je vous recommande Show Me a Hero, c'est une mini-série, on peut la voir en ce moment sur Canal+, quand on est abonné, c'est absolument passionnant, c'est absolument formidable. Bref, pour d'autres réfractaires à David Simon, vous avez toujours et éternellement le même conseil qui revient dans l'instant M, alors allez-y Romain.
Et c'est dans un style radicalement différent, puisque je recommande la saison 10 de Doctor Who.
Sans blague.
Ça démarre samedi.
C'est Romain et Doctor Who. C'est complètement obsessionnel, oui.
Avec Star Trek, voilà. Ouais. Samedi sur France 4 à 18h30. Et cette saison est un point d'entrée particulièrement facile pour ceux qui ne connaissent pas la série. Donc allez-y.
Allez-y, Docteur Who. Ça faisait vraiment très longtemps que Romain Digita ne nous avait pas parlé de Docteur Who. Docteur Who ou The Deuce, au choix.
L'instant M. Le rendez-vous média de France Inter.
Alors, où il est passé mon petit mardi? Il est tellement petit que je l'avais perdu. Il est là, le petit mardi. Alors, Guillaume Bénèche, vous êtes donc mon invité. Vous séchez les cours de terminale ce matin pour nous rejoindre. Vous habitez Rouen. Toute l'équipe de rédacteurs est rouennaise? Non?
Pas du tout. On a des rédacteurs qui vivent un peu partout. On a une petite équipe sur Rouen, ensuite sur Paris, Lyon, Montréal. On en a qui arrivent du Moyen-Orient maintenant. Là, on est en train d'étendre un peu notre cible et nos rédacteurs. Et ça, c'est chouette.
Âge minimum, âge maximum?
Âge maximum, je dirais, voilà, enfin, faut pas que ça dépasse les 25 ans, sinon après, ça n'a plus le but de ce magazine.
Jeune.
Après, âge minimum, il n'y en a pas vraiment, au final. Disons qu'on reçoit des candidatures de personnes qui ont 12, 13, 14 ans et qui écrivent merveilleusement bien. Donc, nous, ça nous intéresse.
Alors, le petit mardi est né en 2012 sur le web. Et puis là, le voilà qui sort en kiosque. Et qui sort en kiosque de manière assez ambitieuse. 35 000 exemplaires, c'est ça?
C'est ça.
35 000 exemplaires. Je donne un ordre d'échelle quand même pour nos auditeurs. 35 000 exemplaires, c'est ce que vend l'Obs en kiosque. Alors évidemment, derrière, l'Obs vend beaucoup, beaucoup plus avec ses abonnements. Mais c'est le triple de ce que vendent les Inrock en kiosque. Et vous avez décidé de le vendre 90 centimes.
Ouais, c'est un gros pari. Un pari très, très risqué aussi. Sachant que, voilà, on était sur le numérique de 2012 à 2015. Ensuite, on l'a sorti en papier, en version gratuite en Normandie pour tester un peu à 15 000 exemplaires. Ça a plutôt bien pris. On avait une très bonne prise en main. Et puis, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le modèle économique du gratuit était très, très compliqué. Surtout sur une région. On avait soit le choix de le passer en gratuit sur toute la France, mais c'était extrêmement compliqué et surtout ça allait nous coûter beaucoup beaucoup d'argent. Et donc nous avions...
Quand je dis nous coûter, c'est que vous êtes éditeur de
c'est
votre
ça,
journal.
Tout à
vous
fait,
êtes totalement suis... indépendant.
Exactement, c'est aussi le but d'être indépendant. Et puis je ne suis pas tout seul à la tête, on est toute une équipe. Et puis voilà, on a eu la possibilité de soit arrêter le magazine, soit sinon le continuer, mais en le passant en kiosque. Alors moi je voulais que ça soit à moins de 20 euros, parce que c'était une volonté, la culture doit être accessible à tous. Mmh. Et n'importe qui, 1 euro c'est assez symbolique, 90 centimes, donc voilà. Et on l'a tiré, voilà, à 35 000 exemplaires ce numéro.
Et vous lisez quoi? Et comment, Guillaume Benesch, vous lisez les journaux?
Oui, je lis les journaux. Maintenant, je lis surtout les magazines. Les journaux, je les consomme sur Internet, du moins les quotidiens et même les hebdos, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. Et quand on a accès à tous les articles sur Internet, je vois pas pourquoi j'irais acheter un magazine en kiosque. Et je pense que c'est le gros problème de la presse écrite aujourd'hui. En revanche, là on a un magazine qui est bimestriel, qui sort tous les deux mois. Nos articles ne sont pas dispo sur Internet, à part avec un abonnement à 2,99 par an. Donc ce qui fait que voilà, nous on propose justement un magazine avec des articles qui sont inédits et c'est ça qui peut intéresser.
Je vous fais écouter l'un de vos congénères, il s'appelle Hugo Travers, succès fou sur YouTube, où il décrypte l'actualité pour les jeunes.
Aujourd'hui, alors c'est les stats aux États-Unis, mais c'est de plus en plus le cas en France. Les jeunes sont de plus en plus sur YouTube et de moins en moins devant la télévision et des médias plus traditionnels. Donc moi, j'essaie de produire du contenu d'information sur la présidentielle, particulièrement alors en ce moment forcément, qui parle aux jeunes, qui sont adaptés à la façon dont les jeunes consomment tout un tas de choses sur YouTube. Et donc j'essaie de produire du contenu à caractère d'information avec une approche journalistique de l'actualité sur YouTube.
Pourquoi le papier? Pourquoi avez-vous choisi du papier et de l'encre qui tache?
Sur ce, je salue Hugo parce qu'on se connaît un petit peu. Disons que le papier, pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, le papier a encore un avenir. Mmh. On a du papier partout aujourd'hui. Les lycéens étudient sur des livres scolaires qui sont encore en papier et qui coûtent une blinde d'ailleurs. Les lycéens écrivent leurs cours sur du papier. On a du papier partout, toujours présent dans notre vie. Chez nous, on a toujours un magazine qui traîne. Et pour moi, le papier, c'est le seul support physique qui restera, qui traversera les années. Aujourd'hui, YouTube, Internet et tous les réseaux sociaux, c'est très éphémère. Mm-hmm. Disons quelque chose, un tweet, on le poste. Il est très très rare, à part quand on s'appelle Benoît Hamon, que le tweet ressorte 5 ans plus tard. Donc, ce qui fait que je pense que le papier a encore un avenir. Après, la vraie question, c'est savoir comment on l'utilise. Nous, on voulait pas la jouer. Voilà, on va complètement sortir du cadre. C'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, on passe du numérique au papier uniquement. Parce que là, clairement, on se serait cassé la figure et c'était mort. Nous, ce qu'on voulait, c'est surtout mêler print et digital. Et pour ça, il fallait une technique, il fallait un support. On avait soit la possibilité de créer un blog et poster des articles sur le blog, ce que font tous les médias. Et nous, ça ne nous avait pas vraiment d'intérêt. Et en quoi on renouvelait la presse écrite ici? Bah, nulle part.
Alors, justement, c'est la question. Un vent de fraîcheur sur la culture, c'est le sous-titre de votre petit mardi. Amélie Nothomb. Tiens, un petit focus sur Amélie Nothomb. Est-ce que vous savez, Guillaume Benesch, que toutes les émissions de Nikos Eliaga sur Europe 1 et de François Bunel sur France 5 commencent elles aussi par Amélie Nothomb? Et pourtant, Dieu sait qu'ils n'ont vraiment pas votre âge. Non, mais c'est vrai. Dans vos choix de rentrée littéraire, après un best-seller, Une vie de Simone Veil, des mots dithyrambiques pour parler des damnés de la comédie française. Vous savez qu'on dit exactement la même chose sur France Inter. Vous savez quel âge on a sur France Inter, comme on est vieux par rapport à vous, et quel âge ont nos auditeurs en moyenne?
Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi un jeune n'écrirait pas justement des articles comme France Inter peut le dire à la radio, ou les autres médias peuvent le faire? Je pense qu'il ne faut pas faire du jeunisme. Il ne faut pas se dire, voilà, les jeunes écrivent comme des jeunes, c'est-à-dire qu'on va mettre des mots familiers, on va mettre des gros mots, on va faire des phrases toutes simples et qui sont inutiles. Non, l'idée, c'est justement de montrer qu'un jeune peut très bien écrire comme un adulte, mais sans écrire comme un adulte. C'est-à-dire qu'il le fait naturellement. Nos rédacteurs, ils se sont pas dit, nous on a fixé la ligne éditoriale au préalable et on s'est dit, voilà, le but, c'est simplement vous êtes comme vous êtes, tout simplement. C'est comme chez McDo, vous venez comme vous êtes. Et vous écrivez pareil. Mais c'est exactement ça. Et ce qui fait que le truc, c'est que nous, on s'est dit, voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête à essayer de copier les médias qui font tout. On va pas copier le Figaro, on va pas copier Télérama, on va pas copier Libé. Ça ne sert à rien, ça se fait déjà. Donc on va essayer d'écrire comme vous pouvez parler, comme vous avez envie de le faire.
Alors Guillaume, moi je vous fais écouter Pierre Dubois, il est auteur de BD. Il était interviewé il y a 26 ans.
Mon cher Pierre, ça me laisse rêveur de voir des jeunes se lancer dans l'aventure de, des
publications. Ah oui, c'est ça formidable, les, bien, les fanzines. C'est des mecs qui se battent dans les fanzines. Ils se battent pour leur goût, pour leur passion. Et alors quand on voit des journaux complètement assis, endormis, des glandus,
ça
déjà des...
Reparti.
Non mais c'est vrai, heureusement justement qu'il y a des générations qui se battent pour des idées.
Ma vraie question, Guillaume, c'est est-ce que vous vous battez? Est-ce que la jeunesse est une cause aujourd'hui? Est-ce qu'elle est un combat? Ou est-ce que c'est une question qui date de quand moi j'étais petite?
On va être très honnête.
Je suis née dans les années 70.
Dans 40 ans, ce seront des personnes de ma génération qui seront à votre place. Alors la jeunesse, aujourd'hui, elle a une parole, parce que celle, c'est elle
non,
qui fera notre avenir.
Non, mais je suis quand même pas si vieille que
mais
ça.
Non, mais je dis ça dans le sens, ou même à votre place, ou même ici en régie, etc.
Oui, d'accord.
Donc ce qui fait que pour moi, la jeunesse, non seulement a une parole, et elle se doit... de se faire écouter. Aujourd'hui, les jeunes, je pense, en ont marre, clairement, de ne pas se faire prendre au sérieux, d'avoir toujours des clichés, mais tout le temps des clichés sur le jeune paresseux qui s'allonge sur son canapé et qui bouffe des chips. Aujourd'hui, le jeune, c'est pas ça. Un jeune, c'est quelqu'un qui a envie de se bouger, qui a compris qu'au final, on l'aiderait pas forcément. Donc, c'est à lui de le faire, c'est à lui de se bouger et d'essayer de faire ce qu'il a envie de faire. C'est un jeune aujourd'hui a énormément de passion. Et grâce à Internet et grâce à tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les technologies, on peut les mettre en œuvre facilement. Et pour moi, le jeune, c'est ça. Et je pense
jeune.
Que le jeune se bat.
Attention, le jeune, oui.
Ouais, et la jeunesse en elle-même se bat et a compris qu'il fallait se bouger et faire des choses et vivre et être passionné.
Alors, est-ce que c'est la jeunesse ou est-ce que vous êtes tous issus de milieux aisés, bourgeois, plutôt culturellement favorisés. Vous êtes, on va dire, pas loin de 10 millions de 15-24 ans en France. Donc c'est extrêmement difficile d'être représentatif d'une telle diversité culturelle et sociale.
Honnêtement, on a tous un milieu social qui est plutôt la classe moyenne au final.
Ouais.
On a tous des parents, on a très peu de parents des membres de la rédaction sont chefs d'entreprise ou quoi que ce soit. On a la plupart des rédacteurs, il y en a certains, les parents gagnent un SMIC. Et non, je pense que au final, je pense que ça se passe pas forcément la vie, la famille, la vie de famille, etc. Et sur l'éducation de chaque élève et chaque justement oui. lycéen. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui relève de la passion et de l'envie.
Alors justement, moi quand je vois des papiers comme avec lesquels vous ouvrez le Petit Mardi, et c'est assez courageux d'ouvrir le Petit Mardi avec des papiers sur réformer par ordonnance, qu'est-ce que ça veut dire? Des papiers assez pédagogiques, l'assouplissement quantitatif, c'est quoi? Et moi je me dis, mais des notices pédagogiques comme ça, elles sont à portée de clic sur Wikipédia. Nous ce qu'on attend, c'est vos points de vue, c'est votre lucidité, c'est votre engagement. On a envie de savoir d'où vous parlez et où vous voulez aller, et il est quand même assez sage ce journal.
Il est sage tout simplement parce que c'est aussi une grosse prise de risque de se lancer dans un magazine qui prend tout de suite un point de vue et qui est très très engagé. Nous l'idée c'est voilà comme vous le disiez, on parle légèrement de politique sans jamais prendre parti avec justement les ordonnances. Nous notre simple but c'est d'apporter à un jeune tout ce qu'il peut avoir et demander et tout ce qu'il peut vivre. C'est-à-dire qu'à la télé on va entendre dans les JT les ordonnances, mais c'est quoi au final? Est-ce qu'on explique vraiment? Et le jeune, si aujourd'hui, par exemple, il ne consomme plus les médias classiques, s'il ne consomme pas la télé, et s'il se retrouve sur YouTube ou à consommer du Netflix,
phénomène
et ce genre
dont
de chose,
vous ne parlez pas du tout d'ailleurs.
Non, mais
dans
c'est justement
journal.
Le souci, ouais. C'est que justement, il a l'impression qu'on le prend pas au sérieux, on lui explique pas. Et le jeune, il se sent, voilà, c'est-à-dire qu'on parle d'ordonnance, je sais pas ce que c'est, je comprends pas ce qu'on me dit. Nous, notre idée, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'on va décrypter, on va juste parler, on va juste expliquer, et sans pour autant prendre parti, parce qu'on veut pas être un média engagé complètement, parce que c'est pas l'idée, nous on veut toucher tout le monde. Et c'est-à-dire que si on se lance dans l'engagement, c'est-à-dire qu'ensuite on va parler de politique, ensuite on va s'engager dans plein de sujets qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels on a envie d'aller. Donc aujourd'hui, voilà, on a des articles qui sont bien sûr...
Alors quand je vous parlais de quand moi j'étais petite, justement, être jeune dans les années 70, c'était prendre position contre ses parents, et notamment en matière de choix culturels. Et c'est pour ça que je reviens à la Comédie Française ou à Amélie Nothomb. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, faire des choix... Parce qu'on a très bien compris que vous faites vraiment la différence entre être autonome, se prendre en main et être révolté, et que pour vous, c'est plus la même chose et que c'est une voie aujourd'hui d'expression de la jeunesse d'être autonome et de se prendre en main. Est-ce qu'aujourd'hui faire des choix culturels pour vous, pour votre génération, ça vous fait ni chaud ni froid que ce soit les mêmes que vos parents?
Non, pas forcément. Regardez la couverture, c'est Petit Biscuit. Petit Biscuit, je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents de 40-50 ans qui écoutent Petit Biscuit tous les jours dans le métro. Donc ce fait que voilà.
Qui est Petit Biscuit? Dites aux auditeurs de France Inter.
C'est un artiste qui vient de Rouen aussi et qui a 17 ans et qui est DJ, qui est lycéen, qui a sorti un titre sur YouTube qui s'appelle Sunset Lover et qui a fait 44 millions de vues en l'espace d'un
mois. Voilà. Et Violaine Ballet qui réalise cette émission me dit dans le casque, moi j'écoute. Quel âge as-tu, Violaine Ballet? 49. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, Guillaume Benesch.
Merci
on
à vous.
On vous laisse reprendre le train, repartir au lycée, repartir à Rouen, et on souhaite bonne chance au petit mardi 90 centimes en kiosque.